13h38 minutes. Fini tragédie, Mathias Turcotte. On va parler de hockey.
Ça va faire du bien.
Oh oui, on va se faire du bien. On va faire du bien à nos auditeurs. Mais il y a une chose qui n'est pas finie, c'est la circulation.
Oui, Capitale, ça s'est réglé. C'est cool. Surtout 20 direction ouest. Puis je le redis, depuis le début des travaux dans le secteur de Taniata, c'est difficile. Donc ça va probablement être comme ça pas mal tout l'été. C'est entre Taniata jusqu'à entre Chemin des Îles et Président Kennedy sur la 20 en direction ouest que c'est au rouge actuellement. Le reste, ça circule bien. Il y a quoi que ce soit d'autre. 418-971-1021 par texto.
Je sais que le repêchage de la Ligue nationale approche quand je reçois ma petite notification qui me dit « Hey, Jeff Fortin, le guide de tout sur le hockey des espoirs est disponible. » Cette année, deux versions du guide. Le guide régulier, le guide de luxe. Hey, le guide régulier, c'est 168 espoirs qui sont analysés par les spécialistes de tout sur le hockey. Le guide de luxe, bien, vous avez le petit bonus de 26 espoirs des Canadiens de Montréal et de 32 espoirs du repêchage de 2027. Les gars sont tellement sur la coche qu'ils sont déjà sur l'année 2027 du repêchage. Et on a le bonheur d'avoir Matt Paradis, qui est le propriétaire de tout sur le hockey. Matt, comment ça va?
Ça va bien. Ça va être Noël dans pas long.
Ben,
pour
c'est
nous autres,
ça. Là. Hey, juste là, en quelques secondes, là, c'est combien d'heures de travail que vous mettez là-dedans? Parce que là, t'écoutes quoi? Une vingtaine de games par espoir? Là? Comment ça fonctionne?
Ben, tu sais, nos observateurs avec tout sur le hockey, ils regardent à peu près une vingtaine de matchs par joueur.
Ouais.
Avec notre plateforme Instat Huddle, ça nous permet de regarder des matchs vraiment découpés en fonction des présences du joueur. Fait que c'est à peu près un 17 à 20 minutes. Fait qu'on fait le calcul, 20 minutes x 20 par joueur. Les gars regardent à peu près un 160 espoir.
Hey,
je sais pas ma calculette à côté.
C'est
ça. Je veux pas vraiment le calculer parce que.
Ta blonde à la maison va dire hey, c'est du temps, tu passes pas avec les enfants, mon matin. D'après moi, c'est pour ça que tu étais faire du bénévolat à l'école de ta fille.
Exactement. C'est pour ça qu'elle m'accompagne en studio présentement.
Exactement. C'est les vacances, pourquoi pas. Ouais, tu disais, c'est Noël avant le temps. Puis honnêtement, là, vous allez entendre plein d'analyses, de plein de bons analystes aussi là, sur les réseaux de télé au Québec. Mais les meilleurs analystes sont surtout sur le hockey. Gavin McKenna va être le premier choix?
Oui, fortement. C'est un joueur qui va répondre à Toronto. Il va répondre à un besoin qu'ils ont perdu dans la dernière année.
Oui, avec le départ de Marner.
Marner, c'était un excellent fabricant de jeu. Puis s'il y a quelque chose qui ressort beaucoup dans le jeu de Gavin McKenna, c'est sa création de jeu. C'est la façon qu'il va alimenter un Austin Matthews à moyen terme. Ça pourrait devenir très intéressant.
Qui on voit d'autres comme gros espoirs? Moi, j'ai en tête, est-ce que les Canucks de Vancouver vont pêcher Caleb Malhotra, le fils de l'autre? Il veut-tu jouer pour son père? Tu sais, c'est qui dans le top 5, là, les autres, que ça brasse?
Ben, tu l'as dit, Caleb Malhotra, c'est un joueur... Nous autres, on a un observateur dans notre équipe qui le place même premier là, dans sa liste des meilleurs espoirs.
Ouais, meilleur que McKenna, j'aurais pas pensé
exactement,
ça.
Exactement, parce que c'est un joueur de centre très complet. T'sais, on se souvient de son père Manny, qui était un spécialiste des mises en jeu, un spécialiste
très défensif.
Du jeu défensif. Mais Malhotra, son fils, c'est similaire au niveau du jeu défensif, mais avec une touche offensive très intéressante. Un gars de 80 points à peu près. Fait
qu'un genre de Suzuki Bergeron en devenir.
Les bottines sont quand même bonnes à chausser, mais dans le type de profil, ça pourrait s'apparenter.
Du côté de San Jose, qui ont le deuxième choix, il y a comme un débat qui se fait. Puis honnêtement, j'ai vu plein de mock drafts qui mettaient un des noms, puis plein de mock drafts qui mettaient l'autre nom. Entre Ivar Stenberg et Chase Reed. Ivar Stenberg, qui est comme projeté comme, en général, le deuxième meilleur joueur du repêchage derrière McKenna. Mais Chase Reed serait le meilleur défenseur. Puis les Sharks auraient plus besoin d'un défenseur. Où tu te places par rapport à tout ça?
Je pense que pour San Jose, ce serait mieux un Chase Reed qui a... nos observateurs le voient comme un futur top 1, top 2 dans la Ligue nationale. Fait que quand tu as déjà Sam Dickinson, tu viens quasiment d'assurer ta première paire à long terme dans l'équipe. Puis un gars comme Ivar Stenberg, qui est excellent, là, très bonne vision de jeu et tout, mais tu sais, t'as déjà un William Eklund, t'as déjà un Will Smith, t'as déjà un McLean Celebrini, donc tu viens comme... Si ton alignement est trop homogène, tu sais, c'est pas toujours bon non plus, fait que je pense que d'ajouter Chase Reed viendrait vraiment compléter à long terme.
Puis dans ce cas-là, si par exemple Toronto prend McKenna, par la suite Reed, par la suite Malhotra, Stenberg vient se glisser quatrième. Est-ce que ça pourrait être en quelque sorte Ivan Demidov de son repêchage, le joueur qu'on voit comme le deuxième meilleur, mais qui finit par glisser.
Moi, ouais, j'irais peut-être pas jusqu'à comparer Demidov au niveau, parce que Demidov, à son année repêchage, était nettement meilleur comme joueur global que Stenberg. Stenberg a été très bon tout au long de la saison. Il y a quand même quelques lacunes au niveau du jeu périphérique. T'sais. C'est un des joueurs qui est le plus proche de jouer dans la Ligue nationale, mais en même temps, est-ce qu'il peut avoir un succès immédiat comme Ivan Demidov? Ça, c'est un petit peu plus en doute, là.
Moi, j'aime ça me péter les bretelles quand j'écoute le repêchage grâce à vous autres, la gang de Tout sur le hockey. Puis là, je vais l'écouter avec mes gars, mes neveux, mon père, mon frère. Quel nom que quand il va sortir, je vais dire, « Hey, ça, là, c'est le pic. » C'est le choix que dans 3-4 ans, on va faire « Wow! » Moi, je me souviens de vous avoir entendu parler de Zach Benson. Fait que quand Buffalo repêchait Benson, j'ai dit « Checker les bains, ce Benson-là. Ça va être un top 3 de ce repêchage-là. » Puis quand il a joué dans les séries contre le Canadien, j'avais vraiment l'air intelligent. C'est qui, là, cette année?
Ben, tu sais, on se rappelle, en 2022, on avait beaucoup vanté Lane Hutson à son
oui,
année repêchage.
Oui, c'est vrai.
Zach Benson aussi, on avait été très, très vocal sur ce profil-là. Cette année, Jeff, je suis pas sûr que tu vas avoir l'occasion de péter les bretelles.
Il n'y en a pas un de même.
Il n'y en a pas tant que ça cette année. T'sais, des joueurs là, que vraiment notre équipe est tombée en amour et qu'on a mis vraiment plus haut que d'autres organes de scouting ou d'observation des espoirs. Là. C'est une cohorte très axée sur les défenseurs, donc qui était plaisante pour notre équipe à regarder. Mais c'est pas une cohorte qu'on se dit, mettons, je vais prendre en exemple le Canadien de Montréal qui repêche 28e. C'est pas une cohorte que je me dis, je monterais de 8 rangs pour aller chercher tel joueur.
Okay.
Tu risques d'avoir un profil quand même similaire, 8 rangs plus haut, 8 rangs plus bas. Donc, c'est profond comme repêchage, mais quand même assez similaire comme profil qui ressort.
Notre Maddox Dagenais des remparts, tu le vois où? Xavier Villeneuve aussi, le défenseur de l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui devrait sortir en première ronde. T'es vois où? Peut-être entre 15 et 20, 15 et 25?
Peut-être un petit peu plus à la fin de la première ronde.
Okay.
Maddox Dagenais a bien fini la saison quand même. Là. Il a effacé certains doutes. Puis tu sais, on se rappelle, l'année passée, en début de saison, c'était un petit peu plus dur en raison des commotions cérébrales qu'il avait eues. Fait qu'il avait commencé l'année un petit peu plus loin sur les listes. Ça s'est restabilisé à la fin de la saison. Nous autres, on le place peut-être plus à la fin de première ronde. Dans le cas de Xavier...
Canadien 28e?
Ben peut-être. Ça pourrait être une cible potentielle, effectivement, là, pour lui. Puis, tu sais, c'est un gars avec un bon gabarit. Puis,
vraiment.
On se rappelle,
un très bon lanceur, lancé de Ligue nationale.
Très bon lancé. Puis, on se rappelle le Pierre Dagenais de l'époque qui allait devant le filet puis qui dérangeait. Ça peut être un profil intéressant qui pourrait se développer comme ça. Mais Xavier Villeneuve, ce qui va être le fun à regarder, c'est est-ce qu'il va sortir avant ou après Tommy Blyle, un Américain qui a joué avec Moncton, qui a fini meilleur recrue de la CHL, si je me rappelle bien. Meilleur défenseur au niveau des points.
5 et 6 seulement, hein? C'est un genre de Lane Hutson.
Ouais, il est pas super
160
grand.
Livres que je lisais.
Ouais, c'est ça, c'est pas...
c'est 6 pieds, 170 livres ici qu'on le met devant moi, mais d'après moi, 6 pieds, on y a mis des bonnes lames.
Ouais,
là,
c'est ça. Puis tu sais, Xavier Villeneuve est 5 pieds 11, 163. Xavier Villeneuve, il était ralenti par les blessures à la fin de la saison, ce qui a fait qu'il a baissé un petit peu dans les listes. Mais c'est vraiment deux profils quand même assez similaires qu'offensivement, ils peuvent très bien diriger le jeu à la ligne bleue. Mais ça va être le fun de voir lequel va avoir le dessus au repêchage.
Ben oui, ça va être super intéressant. Hey, pas le choix de te poser cette question-là en terminant avant de te laisser partir. T'attends-tu à une transaction du Canadien? Nous sommes habitués à ça dans le repêchage?
Absolument. Moi, je m'attends même pas à ce que le Canadien repêche au 28e. C'est pas un choix qui va te permettre d'aller chercher le joueur qu'on a besoin. Il va falloir greffer autre chose, donc un très bon espoir, incluant le 28e choix. Mais je m'attends pas à ce que le Canadien repêche cette année. Puis j'ai dit la même chose l'année passée, puis finalement, ça a fini en Noah Dobson. Fait que là, j'espère pas me tromper encore.
Michael Hage, vas-tu être échangé, Michael Hage, on le garde?
Si le prix en vaut la chandelle, moi, je me dis toujours, on faut pas trop s'attacher aux espoirs, même si on les aime. Michael Hage, c'est l'espoir qui a le plus de valeur présentement. Et si ça te permet de combler un besoin immédiat qui va te permettre de gagner en série, c'est plate, mais il va falloir le sacrifier.
Moi, quand un gars qui tripe ses espoirs a écouté 20 matchs de présence d'un même joueur, me dit faut pas trop s'attacher aux espoirs, j'ai tendance à le croire.
C'est-tu un exemple de rationalité pure?
C'est
ça,
un exemple de rationalité pure parce que normalement, le désavantage des recruteurs, c'est ça, c'est qu'ils tombent en amour à un moment donné avec un joueur. Puis là, ils vantent, puis à un moment donné, whoop, le gars fait patate. Puis ils disent okay, comment ça, j'avais pas vu ces signaux d'alarme-là de ce joueur-là?
Mais tu vois, Lane Hudson, Ivan Demidov et même Jacob Fowler, c'est trois espoirs, par exemple, que j'aurais mis mon point sur la table pour
garder. Vraiment. Je me souviens, Fowler, d'avoir lu ça aussi dans votre guide. Le guide des meilleurs espoirs, tout sur le hockey, disponible sur le site, tout sur le hockey, c'est via la plateforme Patreon. Et on le répète, c'est un guide régulier avec les 168 espoirs et un guide de luxe avec 26 espoirs des Canadiens et les 32 espoirs du repêchage 2027. Matt Paradis, toujours un bonheur de t'avoir avec nous autres en studio. On se reparle quand? Moi, je suis là lundi prochain. On s'organise un petit rendez-vous lundi prochain?
On peut se parler.
Parfait.
On
s'organise un rendez-vous vers cette heure-là, vers 13h30. Puis on va parler du repêchage de la Ligue nationale. Courte pause, puis on fait juste se mettre dedans pour le match de soccer de demain. Team Canada, après la pause. Jusqu'à 14.